Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons Jean-Claude Autruc-Laurençon, écrivain, qui va nous parler de son dernier livre qui s'appelle « La Dame des Templiers ». Bonjour Jean-Claude.
Jean-Pierre, bonjour.
Alors, Jean-Claude Autruc-Laurençon, ça vous parle sûrement, puisqu'il est resté longtemps, je dirais, sur le secteur de Craponne. Jean-Claude, vous avez habité à Pinac.
Oui.
Pendant de longues années.
Pendant pas mal d'années, oui, c'est vrai.
Et alors, la région de Craponne, vous connaissez bien ?
Eh bien, j'avais plein d'attaches à Craponne. J'avais ma grande-tante, certains d'entre vous peut-être s'en souviennent, la dentiste Madame Boucher.
Oui, je pense que tout le monde s'en souvient, parce que c'était quand même un phénomène.
Oui.
Mais au bon sens du terme. Hein.
Tout à fait.
Alors, moi j'ai une petite anecdote sur votre tante, hein, puisque c'est vrai qu'elle avait une deux chevaux à l'époque,
oui.
Il me semble. Et je crois qu'à 98 ans, elle a été au fossé, et elle a dit, eh bien, j'arrête de conduire, et elle a arrêté de conduire.
Exact.
Ce qui est quand même incroyable de prendre conscience qu'elle venait peut-être dangereuse pour les autres, et pour elle-même surtout.
Et tout le monde ne prend pas conscience, effectivement.
Alors, vous écrivez des livres.
Oui, j'essaye.
Hein, vous écrivez des livres. Alors, vous en avez écrit quelques-uns. Oui. Votre passion pour l'écriture est venue quand, chez vous ?
Elle est venue curieusement. J'étais encore en activité professionnelle. Et puis, comme j'habitais à Pinac, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai voulu écrire un petit peu l'histoire de mon village. Voilà. Ça m'est venu comme ça. Ça a très bien marché. Et j'ai enchaîné.
Alors, vous avez... On va dire, 1980, c'est la date de votre du premier écrit.
Du premier écrit,
oui, c'est
voilà,
ça.
80.
C'est en 80, donc bah là, ça pouvait, vous étiez pratiquement obligé d'écrire ça, hein, à Pinac et sa région.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a séduit à Pinac ?
Ben, Pinac, comme dans tous nos, j'allais dire, dans toutes nos communes, il y a une histoire avec un H, et puis il y a les petites histoires. Et vous savez, la grande histoire n'a d'intérêt que si on raconte des petites histoires.
Alors c'est vrai qu'on est dans une région où il y a quand même un patrimoine assez important, qu'il soit petit ou plus grand.
Ah oui, tout à fait. Hein. On en sait quelque chose à Craponne, entre autres, puisque j'ai participé activement au millénaire de Craponne, mais ça ne nous rajeunit pas 1990.
Pas franchement. Oui, mais ça a été une belle fête, en fait, et tout le monde en parle encore. Et je crois que c'était une bonne idée, finalement, de se remémorer un peu.
C'était un... Ça a été un spectacle intéressant, un beau spectacle.
Et un beau succès.
Un beau succès.
Alors, le deuxième que vous avez écrit, c'est... Le titre est en patois, hein.
Oui.
La Cruz del País.
Les Croix du Pays.
Les Croix du Pays. Voilà, moi, je parle pas bien le patois, mais je comprends un peu quand même. Donc, Les Croix du Pays, c'est un livre qui est consacré totalement aux croix.
Alors, c'est très illustré. Il y a énormément de photos. Et énormément aux croix dans un secteur assez large, mais qui gravitait autour d'Apinac. Hein. Apinac, Cusson, côté Velay avec Saint-Pal, etc.
D'accord. Donc là, vous avez attendu un petit peu. Puis en 87, vous publiez Promenades insolites.
Alors, Promenades insolites, ben, comme le nom l'indique, j'ai essayé de trouver des promenades que les gens ne font pas. Parce que les gens font toujours les mêmes choses. Ils vont voir telle église romane, telle croix, ou tel panorama, et il y a des choses assez extraordinaires, mais encore faut-il en rencontrer l'histoire, si vous voulez.
Donc vous avez choisi, justement, les promenades que les gens oublient de faire, peut-être.
Exactement.
Alors après, on va plutôt sur un peu l'histoire. Là, il était une fois la révolution aux limites Forêt-Velay-Auvergne, ça c'est en 1989.
Et oui, c'était pour le bicentenaire de la Révolution. Et là, j'en avais un petit peu marre qu'il y ait énormément d'écrits sur la Révolution, que c'était formidable, extraordinaire. Tout n'a pas été formidable dans la Révolution, loin de là. Et moi, j'ai voulu prendre un peu le contre-pied, mais le traiter au niveau régionalisme véritablement. Parce que moi, on peut dire que mon credo, c'est un pied, enfin, j'en ai pas trois si vous voulez, mais un pied sur le Velay, un pied sur le Haut-Forêt et un pied sur le Livradois. Et donc j'ai essayé de trouver eh bien, des anecdotes, là aussi, des histoires intéressantes sur ces événements de la Révolution, vus du côté très local.
Il y a eu aussi, alors en 1999, à la recherche des trésors perdus, c'est...
Alors toujours sur ce même thème, hein, toujours des histoires de trésors qui ont été trouvés, trésors dont on connaît les légendes, Et puis, de temps en temps, il y a des choses extraordinaires. On en parlait depuis 200 ans. Puis un beau jour, on fait une adduction d'eau et on trouve une cruche pleine de pièces romaines. Alors pareil, aussi bien côté Haute-Loire que côté Puy-de-Dôme, que côté Haut-Forêt.
Un grand mythe pour un petit roi, ça c'est les années 2000.
Alors là, c'est devient, disons, un peu plus sérieux. C'est une enquête que j'ai menée durant plusieurs années sur cette tradition que nous avons dans la région. Là également aussi, Velay et Livradois, sur un éventuel enfant qui aurait été Louis XVII.
D'accord. Ah bon. Très bien.
Alors ça se rattache beaucoup à Saint-Palan-Chalancon, et côté Auvergne, puis Dôme, Vivrolles.
D'accord. Voilà. Après, vous avez écrit Marie de la Terre, les Notre-Dame, donc en Auvergne-Velay-Forêt.
Eh bien, toujours voir tous ces cultes de la Vierge Marie qui existent à travers des chapelles, des petits oratoires, etc. Très souvent avec des légendes qui les accompagnent. Et donc là aussi, j'ai essayé de faire un inventaire, également à base de photos, mais avec des textes sur tous ces oratoires, sur toutes ces traditions, disons de miracles entre guillemets, hein, au sujet de la Vierge.
Alors ça c'est peut-être, puisque là on parlera de votre livre tout à l'heure, La Dame des Templiers, qui est un thriller, hein, oui. C'est un policier qu'on va dire. Hein.
Exactement.
Alors le premier c'était en 2007, Le Cri du Templier, c'est votre premier.
Voilà, Le Cri du Templier. Alors Le Cri du Templier, eh bien il se passe, là j'ai quitté un petit peu la région immédiate, la moitié du bouquin se passe dans le Haut-Var, et l'autre moitié se passe dans le Cantal. Donc le Cantal, c'est pas très loin, hein, c'est Auvergnat.
Oui, ils sont nos voisins. Hein. Et alors, Société des écrivains, là, donc Louis XVII est-il mort en Auvergne? Alors, vous revenez sur Louis XVII.
Là. Alors là, c'est plus sérieux, hein, c'est un essai historique qui a été édité par un éditeur parisien. Donc ça s'adressait, enfin tout le monde, mais un peu plus à des gens, si vous voulez, passionnés par l'histoire, et entre autres de cette tradition de Louis XVII. Officiellement, Louis XVII est mort au Temple, mais on a un certain nombre de doutes, et dans ces doutes, on a une tradition très forte encore dans notre région.
Alors vous parlez en 2011 de l'hypothèse d'un complot maçonnique. Alors on sait que quand on touche aux francs-maçons, c'est jamais facile, parce que c'est quelque chose d'un peu secret, même si on a vu des émissions où c'est pas
toujours
qu'on
a essayé dans des émissions, dans des articles également. Donc c'est lié à cette histoire de Louis XVII est-il mort en Auvergne, où on trouve tout un complot de francs-maçons dans notre région. Aussi bien à Ombert qu'à Saint-Palan-Chalancon, qu'à Aurillac, qu'à Thiers, avec des histoires très curieuses. Là, c'est un essai historique. Là.
Plus... C'est un essai, d'accord. On va dire que c'est plus un essai historique.
Oui, c'est plus un essai historique, mais qui a eu pas mal de succès. J'ai de la chance jusqu'à présent.
Alors là, je pense que c'est très différent. Vous avez appelé ça Route 132, Québec 2013. Vous êtes rendu au Canada.
Alors au Québec, eh bien, c'est la sixième année que j'en viens.
Ah d'accord.
J'y étais au mois de septembre. Avec
vous êtes tombé amoureux du Québec.
Eh bien, d'une part, mais alors vraiment amoureux. Hein, et d'autre part, j'ai quand même mon fils qui est docteur en psychologie dans la ville de Québec.
Ah ben, bien sûr.
Donc il y a deux raisons.
Ceci expliquant cela.
Voilà. Et donc là, c'est vraiment typiquement canadien, si vous voulez. Ça concerne pas les lecteurs français. Et c'est la route 132, c'est un recueil de nouvelles qui m'ont été inspirées lors d'un voyage que j'ai fait sur la route 132.
Voilà. Alors, route 132, qui va de où à où quand on
Alors, la
Québec
route 132, ben, elle fait le tour de la Gaspésie.
Ah, d'accord. D'accord.
Voilà. Le tour de la Gaspésie complet que nous avons eu l'occasion de faire avec mon épouse il y a 4 ans.
Alors c'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'aller à Québec. Moi aussi, j'étais tombé un peu amoureux du Canada déjà. Enfin, du Canada, c'est tellement grand.
Oui,
c'est
une tellement
partie
gras.
Du Canada. Ouais. Mais j'avais trouvé à l'époque que Montréal, mais surtout Québec, parce que c'est vrai que quand on arrive à Québec et qu'on est français, il y a quand même un plus.
Ah oui, ah oui, oui. Le plus de la langue, même si parfois on a des difficultés. Hein.
Oui, mais enfin quand même les Québécois parlent le français, enfin le Québécois, hein, parce que... Mais c'est quand même, j'avais trouvé une ville très sympa, une ambiance très énorme, hein, parce que c'est quand même des gens qui vivent, et je trouve, enfin c'est mon opinion, hein, vous y avez été plus souvent, mais... Ils vivent un peu l'américaine, mais quand même avec un petit côté européen.
Avec un côté européen, hein, c'est qui est bien ça. Resté, ouais. Ne serait-ce que dans la langue. Hein.
Voilà.
Hein. Ils ont gardé des mots qu'on utilisait il y a 150 ans, 200 ans. Ouais. On dîne pas le soir, on soupe.
En soupe, oui.
Mais parce que tout le monde mangeait de la soupe.
Et oui, c'est ça. Ouais.
Etc, etc.
Voilà, bah, ceux qui connaissent Québec, bah, peut-être ce route 132 va leur rappeler des souvenirs. Hein.
Ah oui, sans doute.
Pour ceux qui ont fait la Gaspésie. Alors, on va parler de ce qui nous amène aujourd'hui. C'est La Dame des Templiers. Donc, c'est votre deuxième thriller.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire comme cela des thrillers, des romans policiers ?
Eh bien, écoutez, j'étais plutôt, moi, spécialisé un peu dans ce qu'on appelle l'histoire locale. Donc, j'ai pas mal œuvré dans l'histoire locale. On vient de faire un peu la liste de mes écritures. Et puis, un beau jour, dans le Var, j'adore le Haut-Var. Hein. Dans le Haut-Var, j'ai été étonné de certaines choses qui m'ont interpellé. Et c'est ce qui m'a donné cette idée d'écrire un thriller qui se déroule dans le Haut-Var. Et comme j'adore également le Cantal, il y avait aussi des choses qui m'intriguaient dans le Cantal. Ça a fait le lien et ça a donné lieu à ce premier thriller qui est dans une ambiance, disons, templière et de sociétés secrètes diverses et variées.
Donc toute l'intrigue se déroule autour de ces sociétés secrètes, comme
oui,
vous dites.
Oui.
C'est la trame du roman.
Un petit peu. Voilà.
Alors il y a beaucoup de personnages qui sont dans ce thriller là, La Dame des Templiers.
Alors dans La Dame des Templiers, ben il y a le héros, mais on va le mettre en guillemets. Le héros et puis des personnages qu'il rencontre, un personnage assez extravagant qui est un libraire d'origine russe qui s'appelle Ouzansky mais qui est né au Puy et qui tient une librairie dans le vieux Puy et qui est un tenant d'alchimie. Donc vous connaissez un petit peu ce qu'est l'alchimie, la recherche, la pierre philosophale, etc. Et puis il va rencontrer un autre personnage... qui est un monsieur, disons, un peu le hippie des années 70, vous voyez, qui est resté hippie.
D'accord.
Qui porte un catogan, qui est pieds nus dans des sandales, qui a une grande chemise beige, et qu'on appelle le druide.
D'accord.
Voilà dans les personnages qu'il va rencontrer, entre autres.
Donc c'est un, vous l'avez déroulé à l'époque actuelle ou
alors c'est à l'époque actuelle. Ah oui, tout à fait.
On est vraiment au
21e siècle. On est au Puy. Comme je le dis au début, tous les lieux évoqués sont exacts. J'ajoute quand même, à part peut-être quelques-uns. Mais on va être entraîné dans le Puy, dans l'histoire du Puy et dans des aspects très secrets du Puy.
Oui, puisque je vois que vous parlez de... bon, il y a une phrase au quatrième de page. Cela faisait bien 10 minutes qu'il cheminait dans le souterrain. Si on continue, on va arriver au puits, dit le père Bessac, et je vous parie. Bon, après, on va trouver ça dans le roman. Hein.
Tout à fait.
Alors, ce souterrain se situe dans la ville du Puy.
Je vais sans doute pas vous apprendre, je pense que vous le savez. La ville du Puy, comme bien d'autres villes de notre région, sont creuses. Alors, c'est le cas pour Aurillac. C'est le cas pour Thiers, c'est le cas pour Clermont et c'est le cas pour Le Puy. C'est-à-dire que ces villes, il y a une ville souterraine qu'on ne visite plus, bien entendu. Hein, mais au 19e siècle, on pouvait encore y accéder. Donc c'est aussi ce qui m'a donné un petit peu cette idée de ce puits secret qui est parcouru de souterrains. Alors pourquoi ces souterrains ? Eh bien toutes ces villes, compte tenu des invasions, des pillages et des guerres, ont trouvé ce système d'essayer de préserver un peu leurs biens en cas de problème.
Alors c'est là que démarre en fait le roman, hein, puisque je vois que le père Bessac, donc vous l'avez écrit BE2SAC.
Oui.
Alors
oui.
Ici on écrit BEY.
Avec Y, mais c'est fait exprès.
Non, d'accord. c'est une histoire qui est sortie de votre imagination.
Ah oui, totalement.
Totalement.
C'est oui,
parce
que... un petit peu la suite du Cri du Templier. Mais on n'est pas obligé d'avoir lu le Cri du Templier
pour lire celui-là.
Mais c'est un peu la suite.
D'accord. Alors bon, on va dire que ça se déroule, puisque vous dites l'antique à Nice. Alors à Nice, qui est l'ancien Puy-en-Velay.
Eh oui. Le Puy-en-Velay était une capitale des... À l'époque celtique, était un centre religieux des druides. Hein, à telle enseigne que lors de l'invasion romaine, puisqu'on peut parler d'invasion, quand ils sont montés dans le Velay, eh bien, au lieu de mettre leur gouvernement, leur capitale, entre guillemets, au Puy, ils n'ont pas voulu toucher à ce centre culturel. Et vous savez où ils ont installé leur centre ?
Non.
À Saint-Paulien.
Ah ben, tout simplement.
Eh oui, à Saint-Paulien. Et pendant un certain nombre d'années, le gouvernement romain était à Saint-Paulien. Ah, ils avaient trop peur de toucher, d'avoir des problèmes avec les populations locales. À Nice, était un grand centre religieux pour les druides.
Très bien. Donc voilà, tout ce roman va se dérouler autour du mystère, là, puisqu'il y a
mystère. Alors, c'est une rédaction alternative, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'enquête policière, et le chapitre suivant, eh bien, il y a le héros qui recherche un peu de documentation dans la ville du Puy. Et de chapitre en chapitre, comme ça, c'est alternatif. L'enquête avance, parce que ça commence par un crime, assez odieux.
Oui, on voit, oui.
Ça commence par un crime, donc il y a cette enquête, et puis en parallèle, eh bien, il y a le héros qui rencontre les personnages que j'évoquais tout à l'heure, le fameux libraire, le druide, et il cherche à se documenter. En fait, c'est un écrivain, le héros. C'est un écrivain, et il cherche une documentation, des choses intéressantes, parce qu'il est en panne, il a rien écrit depuis 4 ou 5 ans.
Très bien. Donc, La Dame des Templiers, Jean-Claude Autruc-Laurençon, qui nous parle de son livre aujourd'hui. Donc, vous l'avez... c'est pas auto-édité, là. Je vois que c'est La Clé du Chemin.
La Clé du Chemin, elle n'édite pas. L'auto-éditeur, c'est moi.
Vous êtes auto-éditeur. Non, mais je dis vous êtes auto-éditeur, mais je vois que vous avez mis Conception Graphique,
oui, La Clé du Chemin. Oui, La Clé du Chemin, mais en forme, si vous voulez.
Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Mais vous êtes auto-éditeur.
Ah oui, absolument.
Oui. Mais c'est un peu votre métier, je crois, hein, non ?
Ben écoutez, je m'occupais de la communication du Crédit Agricole à Lyon.
Voilà, il me semblait que vous étiez un peu dans la com, donc vous savez faire. Alors, on le trouve, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies, je présume.
Voilà, les maisons de la presse, les bonnes librairies, bien sûr, dans toute la région. Hein, et au Puy, mais pas qu'au Puy.
Et il est sorti il n'y a pas très longtemps ?
Eh bien, écoutez, il est sorti depuis... j'ai mis ça en place depuis 8 jours. Hein.
Ah oui, mais c'est très récent.
C'est très récent. La semaine dernière, j'étais au Puy, vous voyez, pour négocier avec la FNAC, avec la Maison de la Presse,
etc. Est-ce que vous allez avoir quelques dédicaces? Vous en faites quelques-unes?
Alors, il y en aura certainement, mais pour le moment, ça démarre.
Ça démarre.
Et puis, j'attends un petit peu aussi...
De voir le retour
au niveau de la presse, hein, parce que c'est adressé... au support bien connu dans le Velay. Hein.
C'est normal.
L'Éveil, la Tribune,
ah ben vous pouvez citer, nous, y a pas
etc. De le Renouveau, la Montagne aussi, parce que l'autre côté, sur le Puy-de-Dôme. Et puis Radio Craponne aujourd'hui, c'est mon premier,
premier
contact
avec la radio.
Avec la radio.
Alors bon, La Dame des Templiers, alors c'est vrai que souvent, quand on reçoit un écrivain qui a écrit un livre, on lui dit, vous n'en avez pas un autre dans la tête, parce que souvent, il y en a un autre qui trotte déjà. Vous, c'est votre cas ou pas? Il n'y aura pas de suite à La Dame des Templiers?
Non, il n'y aura pas de suite.
L'histoire s'arrête là.
L'histoire s'arrête là, il n'y aura pas de suite. Ce que je prépare pour le moment, rien du tout. Je m'occupe surtout de faire la promo
de votre livre,
de La Dame des Templiers. Et puis, je vais sans doute écrire un petit guide de comment bien voyager au Québec.
D'accord. Ah oui, ça, on voit que le Québec, ça vous a... vous êtes tombé amoureux du Québec.
Ça fait 6 ans que j'y vais.
Régulièrement,
donc, on connaît les petites ficelles, les petites choses à faire, à pas faire, les bonnes adresses.
Voilà. Mais écoutez, Jean-Luc Autruc-Laurençon, merci d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle votre livre, La Dame des Templiers, ça se passe au Puy-en-Velay. dans le Haut-Var, hein, bon, ben, à découvrir qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des, il y a plein de mystères, ben, pour.
Les mystères du puits.
Les mystères du puits, et pour savoir comment, ben, qui a, puisqu'il y a, quelqu'un qui est mort, donc c'est peut-être pas une mort naturelle, hein, c'est ce qu'on a compris.
Oui, oui, il y a quand même pas mal de cadavres.
Il y a une intrigue, oui, il y a pas mal de cadavres, donc, ben, on vous invite à le découvrir. Merci d'avoir été avec nous, hein, et puis, ben, à votre prochain livre.
À mon prochain livre, et merci beaucoup Jean-Pierre.
Ah ben de rien, c'était un plaisir de vous retrouver.
De se retrouver.
Ça fait quelques années qu'on ne s'était pas vu. Merci.